Bonsoir, je suis Philippe Fabry. J'enregistre cette émission le 4 avril 2025. Il est 21h33. Je fais cette émission pour traiter de la question des tarifs mis en place par Donald Trump, parce que on entend beaucoup de choses à ce sujet. Alors il y a ceux qui essaient de décrypter, et à ce moment-là, ils trouvent tout un tas d'explications différentes. Et pour une bonne partie, il y a ceux qui simplement se contentent de penser que ce que fait Trump est totalement erratique, que ça n'obéit à peu ou pas de logique interne. Et donc il faut rien comprendre, que c'est juste qu'il est nul et que les États-Unis sont en train de faire absolument n'importe quoi. Donc je voudrais revenir là-dessus, parce que selon moi c'est une forme de démission de la pensée de considérer comme ça et qu'il n'y a rien à comprendre, surtout de la part de gens qui donnent quand même des indices pour essayer de comprendre ce qu'ils font. Mais au-delà des indices qu'ils donnent, surtout, vous le savez si vous suivez cette chaîne, si vous découvrez avec cette vidéo, vous apprendrez à le savoir. Moi j'essaie de commenter l'actualité et les choses qui se passent en utilisant mes modèles, et ces modèles historiques, ils peuvent permettre d'aider à comprendre, d'interpréter les quelques éléments, voilà, qui sont donnés à voir, pour essayer de voir, pas forcément quelle est la stratégie de Donald Trump lui-même, ce qu'il cherche à faire. C'est difficile de percer le secret intellectuel des gens et de savoir exactement ce que les gens veulent faire, mais de comprendre en tout cas ce que les États-Unis font, c'est-à-dire qu'ils sont mûrs pour faire et ce qu'ils sont, d'une certaine manière, destinés à faire. C'est là-dessus que je voudrais revenir avec vous ce soir. Je vais me baser notamment sur ce que je dis dans ce bouquin, Alcizars, et dans le qui est tout récent, hein, je le rappelle, et qui est disponible sur Amazon, dans lequel, je ne vais pas vous faire la démonstration, mais je vais utiliser simplement les conclusions de ce livre pour essayer de faire une petite analyse sur ce qui se passe. J'expliquais que les États-Unis suivent la même trajectoire que n'importe quel État-nation en construction, et qu'ils en sont à peu près au stade qui était le nôtre, celui de la France, au XVIIe siècle, c'est-à-dire au moment de l'entrée dans l'absolutisme. J'utilise aussi d'autres exemples, par exemple l'entrée dans le début de l'Empire allemand, hein, au XIXe siècle, mais aussi le basculement impérial romain qui correspond à ce qu'était le XVIIe siècle en France, c'est-à-dire pour l'Italie romaine, à la mise en place d'un système absolutiste. Alors ce système absolutiste, naturellement, il a un certain nombre d'effets, des effets politiques notamment, avec la mise en place d'un système qui est de plus en plus centralisé, de plus en plus autoritaire, hein, ce dont Trump est la marque et qui ne s'arrêtera pas à Trump, c'est-à-dire que c'est un mouvement qui va bien au-delà de Donald Trump. J'ai envie de dire, même si vous avez Donald Trump aujourd'hui, c'est parce qu'il y a ce mouvement de fond aux États-Unis, et que Trump n'en est que l'expression. Si ça n'avait pas été lui, ça aurait été un autre. Et d'ailleurs, beaucoup de choses qu'il fait ne sont qu'une forme d'accentuation ou consiste à assumer des choses qui étaient déjà en mutation depuis un moment, sous Barack Obama, sous même George Bush avant, et puis sous Biden également. Donc je voudrais appliquer cette réflexion pour essayer de comprendre à quoi nous avons affaire avec cette mise en place de ces fameux tarifs, hein, ces droits de douane. Alors moi j'emploie le mot tarif aussi, pas comme anglicisme, mais parce que c'était le mot qu'on employait au XVIIe siècle encore, et c'était le mot qu'on employait notamment lorsque Colbert a mis en place ses tarifs de 1664 et 1667, par deux ordonnances. Et par ces tarifs, en fait, Colbert rationalisait ou mettait en place ce qui sera le système d'imposition de l'Ancien Régime jusqu'à la Révolution, et en particulier le système douanier d'Ancien Régime jusqu'à la Révolution. Et ce système, c'est celui que vous avez sous les yeux. Je vous ai appliqué la carte des traites en France, qui distinguait le territoire du Royaume de France, hein, qui était un territoire impérial encore en ce stade, parce que c'était la monarchie française qui avait conquis l'ensemble de cet espace depuis le Moyen-Âge. Et petit à petit, au fil des siècles, la monarchie travaillait à organiser de manière administrative cet État, à organiser sa domination sur cet espace et à le centraliser de plus en plus en effaçant les particularismes locaux au profit d'une administration centrale. Naturellement, comme dans toutes les constructions d'État-nation, cette évolution s'achèverait avec la Révolution nationale qui commencera en 1789 et qui liquiderait tous les particularismes locaux au profit d'un système rationalisé à l'échelle de l'État. Mais là, forcément, un siècle et demi avant, on était d'abord encore dans ce processus de construction et d'harmonisation progressive. Et donc avec ce système des traites, ce qu'a cherché à faire à ce moment-là Colbert, c'est donc rationaliser, faire en sorte de tirer le maximum de ressources de l'Empire français, en fait, hein, ce qui était donc le domaine impérial des rois de France. Donc en tirer le maximum de ressources, c'est avoir un système d'imposition qui est efficace et avoir également un système économique qui est efficace. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous ayez juste un système fiscal puissant, il faut que économiquement le pays se développe. Et donc voilà ce qu'a cherché à faire Colbert. Il a cherché à mettre en place ce qu'on pourrait appeler un premier système d'union douanière en France, par lequel il a constitué donc ce système des traites. Et la véritable union douanière là-dedans, c'est ce que vous avez en Belge, qui est le régime des cinq grosses fermes. Je vais y revenir dans un instant. Ensuite, vous aviez les provinces réputées étrangères, en orange. Et en marron, vous aviez les provinces à l'instar de l'étranger effectif. Et ces trois types de provinces, c'était des provinces qui étaient plus ou moins interconnectées entre eux ou via l'étranger. En gros, c'était du plus connecté, hein, du plus gros système de confiance, si vous voulez, de la véritable union douanière vers les choses de plus en plus périphériques, jusqu'à donc l'étranger effectif. C'était ça que ça voulait dire. C'était des termes fiscaux, hein, c'était pas nationaux. Ça revêtait naturellement une certaine réalité culturelle, parce que les cinq grosses fermes, ça représente l'ancienne France, hein, tout le bassin parisien étendu au Pays de la Loire et tout ça, c'est-à-dire la vieille France, véritablement. Et le reste, c'est naturellement des territoires qui sont passés sous contrôle plus tardif, hein, l'Aquitaine, l'Occitanie, etc. Alors pourquoi les cinq grosses fermes? Pourquoi ça s'appelait les cinq grosses fermes? C'est cet espace qui a été le premier en fait à être unifié par les rois de France au Moyen-Âge. Et tout simplement parce que c'est en raison du système fiscal précisément, puisque le système fiscal c'était un système de fermage. C'est-à-dire que les impôts, il n'y avait pas véritablement d'administration fiscale qui s'occupait de réceptionner les taxes, c'était pas des fonctionnaires, c'était un système de fermage. Elles étaient affermées, c'est-à-dire qu'on les donnait en ferme. Vous savez qu'aujourd'hui, la ferme avec les animaux, le mot originel, c'est parce que ça désignait des métayers, hein, donc des gens qui cultivaient pour autrui. Et ça, c'est un système de fermage, juridiquement. Et donc, le fermage, les cinq grosses fermes, c'est parce que c'était les cinq grosses réserves d'argent, c'est-à-dire celles qui rapportaient le plus à la couronne et qui étaient unifiées dans ce système. Et qu'est-ce que c'était que le fermage? Ben, c'est assez simple, en fait. C'est vous avez besoin, quand le roi a besoin, pense qu'une région, pour une année, doit lui rapporter tant de recettes fiscales, mettons 10 millions, 10 millions de livres. Il va aller voir ses fermiers généraux, donc les gens à qui il donne les taxes en fermage, et leur dire, voilà, cette année, je veux 10 millions. Les fermiers généraux, qui sont des financiers avec une grosse surface financière, lui avancent la somme, la lui prête en fait, enfin, plutôt, il la lui donne par avance, et ensuite, à charge pour eux de se payer en levant eux-mêmes la taxe. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une délégation pour lever la taxe. Et en général, les fermiers généraux, c'est ce qui a fait qu'ils étaient très détestés à la Révolution, c'était les gens qui s'enrichissaient sur le dos du peuple, puisque en fait, ils allaient chercher à capter plus que ce qu'ils donnaient naturellement au roi. Donc, d'une certaine manière, c'est une cession de créance classique, hein, c'est-à-dire que quand vous cédez une créance, vous la cédez moins cher que son prix nominal, parce que vous assumez qu'il y a un coût de récupération pour celui qui ensuite s'occupera de récupérer la créance. Et le fermage, c'était typiquement ça. Donc c'était comme ça que fonctionnait le système fiscal dans ces régimes. Et donc ces cinq grosses fermes, je détaille le système fiscal dans ces régimes parce que vous verrez, on en reparlera plus tard. Mais ces cinq grosses fermes, donc c'était issu du système primitif de taxation et surtout d'administration fiscale, en fait, tout simplement. Et ça réunissait donc l'espace qui était également le plus peuplé et le plus riche, finalement, parce que c'est le grand bassin parisien, c'est celui qui est le plus connecté. Ensuite, vous allez dans le sud, forcément, il y a l'Aquitaine qui reste des plaines, mais après, vous avez tout le massif central, vous avez des espaces qui sont périphériques, qui sont traditionnellement moins peuplés, c'est encore le cas aujourd'hui d'ailleurs, hein. Et puis, vous avez beaucoup de paysages montagneux, etc. Donc les voies de communication ne sont pas du tout les mêmes. Et donc les provinces réputées étrangères étaient des provinces qui étaient un petit peu entre deux, c'est-à-dire avec lesquelles on pouvait commercer depuis les cinq grosses fermes, mais qui ne pouvaient pas être dans le même régime d'union douanière, notamment parce qu'elles avaient des rapports commerciaux avec l'étranger qui aient déjà été plus importants. Donc pour ne pas rompre leurs rapports commerciaux avec l'étranger, on les mettait dans une espèce de deuxième rang comme ça, fiscal, qui ne pouvait pas être intégré à l'union douanière directement. Probablement qu'ils ne l'auraient pas accepté d'ailleurs, parce qu'ils avaient leurs habitudes de commerce avec l'étranger, en direction de l'Espagne notamment, pour tout ce qui était le sud de la France. Et en direction de l'Allemagne, et là c'était encore plus éloigné, pour les provinces à l'instar de l'étranger effectif, qui elles, toute l'Alsace notamment, et la Lorraine, étaient très intégrées avec l'économie de l'Empire, du Saint-Empire romain, et donc toutes les Flandres, etc. Donc c'est pour ça que c'était vraiment en dehors, c'est-à-dire qu'il fallait... il fallait pouvoir mettre ces parties du pays en dehors de la zone douanière principale, parce que l'idée, c'était, avec les grosses fermes, dans un deuxième temps, de mener une guerre commerciale à l'extérieur. Et cette guerre commerciale à l'extérieur a été conduite à partir de 1667, c'est la deuxième vague de tarifs de Colbert, qui consiste en une guerre commerciale qui est lancée à l'encontre des Provinces-Unies, notamment, donc la Hollande en fait, et de l'Angleterre, qui étaient les grands concurrents commerciaux et qui avaient un petit peu les grands monopoles, qui étaient les grandes puissances commerciales, puisque c'était eux qui avaient les flottes les plus puissantes, notamment à ce moment-là, et qui assuraient le grand commerce mondial dans l'Atlantique et dans tous les océans du monde d'ailleurs. Et ces guerres commerciales, ensuite, allaient mener à des guerres réelles, hein, puisque ça allait, la situation allait un petit peu déraper. Mais l'idée de Colbert avec ça, vous le savez, vous avez dû l'apprendre à l'école, au collège, c'était de mettre en place un système mercantiliste, c'est-à-dire dans lequel l'idée, c'est de faire rentrer de la devise et de développer le commerce à l'intérieur, notamment, vous savez, c'est toute la politique des manufactures de Colbert, donc, première industrialisation, finalement, pour essayer justement de concurrencer l'Angleterre et les Provinces-Unies, qui eux, étaient déjà beaucoup plus développées que la France à ce niveau-là. Naturellement, une politique qui a été mitigée dans ses résultats. Effectivement, ça a permis d'ouvrir quelques manufactures en France, ça a permis un gros décollage économique de la France. D'ailleurs, ça sera un problème à la veille de la Révolution. Mais à l'époque, ça restait néanmoins un progrès dans la gestion douanière en France, puisque ça permettait de supprimer tout un tas de barrières douanières préexistantes. Donc c'est un travail qui est cohérent avec la mutation absolutiste du régime en France à la même époque, dans le sens où ça correspond à une centralisation du pouvoir, une recherche du pouvoir central d'ordonner fiscalement et douanièrement le territoire qu'il contrôle. D'abord pour renforcer le centre sur lequel il s'appuie économiquement, les cinq grosses fermes, et ensuite en organisant la périphérie pour qu'elle vienne également nourrir ce centre et donc asseoir le pouvoir central absolutiste. Et un autre exemple du même fonctionnement, on le trouve avec le rôle du Zollverein, c'est-à-dire l'union douanière, hein, c'est ça que ça veut dire, dans l'histoire de la constitution de l'Empire allemand, puisque au lendemain des guerres napoléoniennes, vous le savez, le Saint-Empire romain germanique avait été détruit. Il a été remplacé dans la mise en place de l'ordre européen et mondial post-napoléonien par la Confédération germanique, qui était en fait un retour finalement de l'idée de Saint-Empire romain germanique. Mais cette confédération, qui n'était pas encore une unité germanique, parce qu'il y avait deux pôles, la Prusse d'un côté et l'Autriche de l'autre, qui se disputaient un petit peu la domination sur cet espace germanique. Et l'union douanière a été le moyen pour la Prusse de faire l'Empire allemand. Ça a été le premier moyen de faire l'Empire allemand. Dès le début du XIXe siècle, donc dès le lendemain des guerres napoléoniennes, la Prusse a mis en place ce système et a été progressivement rejoint par un certain nombre d'États. Donc ça commence en 1833-1834, hein, le premier traité est signé en 1833, vous voyez ce sont tous les états en bleu, et prend effet en 1834, et vous aurez ensuite, pendant les guerres bismarckiennes, l'ajout de tous les territoires qui seront conquis par l'Empire allemand, c'est-à-dire les territoires conquis durant la guerre des duchés, notamment, ensuite durant la guerre austro-prussienne, et enfin durant la guerre franco-prussienne, pendant laquelle ils nous prendront donc l'Alsace-Moselle. Et donc, ensuite, immédiatement, ça deviendra l'Empire allemand. Mais, très clairement, ce qui a permis à la Prusse d'asseoir sa domination dans l'Allemagne du Nord et de s'attacher d'abord la Bavière, le Württemberg, la Saxe, etc., que vous voyez sur la carte, eh bien, c'est ce système d'union douanière, donc de mise en place d'un marché unique. Finalement, c'est ce qu'on a retrouvé également dans la constitution de l'Union européenne, hein, le marché unique devant rapprocher les peuples. C'était l'idée de Friedrich List, le théoricien du protectionnisme allemand, qui pensait que l'union douanière serait une étape, hein, et tous les nationaux libéraux allemands pensaient ça, serait une étape pour la mise en place de l'Empire allemand. Mais comme je vous l'ai déjà dit maintes fois, le 1870, c'est l'équivalent, voilà, on va dire Bismarck, le règne entre guillemets de Bismarck, c'est un peu la naissance de l'absolutisme, de l'état absolutiste et de la phase absolutiste surtout en Allemagne. Et donc ça correspond à ce qui s'est passé là aussi au XVIIe siècle en France. Et alors, dernier exemple que je peux vous donner, que je mentionne souvent, en particulier dans El César, parce que c'est la référence, c'est celle de la comparaison entre les États-Unis d'Amérique et la Rome antique, c'est la mise en place progressive, à partir du deuxième siècle avant Jésus-Christ, de la phase absolutiste romaine qui démarre véritablement avec la mise en place de l'Empire, un petit peu avant, c'est-à-dire des Jules César. Mais on en voit les prodromes avant ça, puisque une étape importante est franchie au IIe siècle avant Jésus-Christ, quand se met en place avec, vous savez que c'est au lendemain des guerres puniques qui se terminent, donc la deuxième guerre punique, la principale, celle contre Hannibal, se termine au début du deuxième siècle avant Jésus-Christ, et pendant les 50 ans qui suivent, hein, c'est les fameux 50 ans qui feront dire, qui rendront l'historien grec Polybe admiratif, qui dira mais comment Rome a pu conquérir, se rendre maîtresse de l'univers en 50 ans. Eh bien, c'est pendant ces 50 ans, donc pendant ce deuxième siècle avant Jésus-Christ, la première moitié de ce deuxième siècle avant Jésus-Christ, Rome s'est imposée à la totalité du vieux monde, on va dire, du vieux monde antique, c'est-à-dire toute la Méditerranée orientale, mais également la Méditerranée occidentale. Elle a établi en fait son empire mondial et elle a créé tout un tas de provinces. Hein, toute première province, c'est la Sicile au lendemain de la première guerre punique, mais ça devient une pratique habituelle. Et ces provinces à l'étranger, en fait, sont des États auxquels Rome impose notamment des tribus, c'est-à-dire le paiement de tribus d'argent, annuellement de l'argent qui doit être envoyé à Rome, c'est-à-dire c'est un impôt international, on va dire, qui est l'impôt impérial romain. Et la mise en place de ces tribus, et parfois le pillage, aura permis notamment de supprimer ce qui était justement le tributum, c'est-à-dire, parce que le tributum, en fait, c'est l'impôt à Rome, hein, c'est pour ça qu'on a retenu le mot tribu, mais il l'appliquait à tout un tas de choses. Et notamment le tributum qui servait à financer les dépenses de l'armée romaine. Hein, puisque l'idée, c'est que les citoyens romains soit devaient servir dans l'armée, soit devaient payer l'impôt. Ceux qui ne pouvaient pas servir dans l'armée, mais qui étaient en âge de le faire normalement, ils devaient au moins payer l'impôt pour financer l'armée. Et donc cet impôt, qui était l'impôt direct qui existait chez les Romains, et l'impôt direct de base, hein, puisque comme je vous l'explique toujours, le principe du premier impôt, c'est celui qui doit permettre de financer une force armée permanente. Dans la construction d'un État, c'est ça la première étape. Et donc cet impôt-là a été supprimé par le consul Polémile, après sa victoire sur la Grèce et la provincialisation de la Grèce, qui justement permet de remplir les caisses de Rome avec la perception d'un tribut. Donc vous voyez comment se met en place, c'est-à-dire un système de véritablement domination impériale. Alors pourquoi je parle de tout ça, ou surtout qu'est-ce que ça nous amène à comprendre de la doctrine américaine ? Eh bien, je pense qu'en fait, ce qu'on est en train de voir, c'est en tout cas les premiers... Alors je ne dis pas, encore une fois, je ne dis pas que le plan est tout fait et existe en entier dans la tête de Trump, hein, de la même manière qu'il n'a sans doute jamais existé dans la tête des dirigeants allemands au XIXe siècle ou des dirigeants français, Richelieu puis Colbert. Il n'y avait pas de continuité, il n'y avait pas un protocole rédigé pour dire voilà la stratégie pour transformer un État absolutiste. C'est pas du tout ça. Ce que je dis, c'est que certaines politiques économiques, fiscales, d'organisation du territoire et de tentative de maintien de l'emprise et de perception des ressources d'une manière impériale équivaut à un certain stade d'évolution. Bon. Et donc à partir du moment où les États-Unis arrivent à ce stade, rentrent dans cette phase absolutiste, naturellement, ils vont être amenés à prendre des décisions et à mettre en place des systèmes qui viseront à faire exactement les mêmes choses qu'on a observé ailleurs. C'est naturel, c'est la politique économique et fiscale est naturelle, si vous voulez, de ce type d'État-là. Et donc, je voudrais expliquer quels sont les éléments qui sont déjà visibles, puisque je vous ai dit qu'il y a des éléments qui sont visibles. Est-ce que des éléments existent et est-ce que ces éléments vont dans le sens de ce que je viens de vous exposer? Ben, le fait est que oui, tout à fait. Sinon, je n'aurais pas fait cette vidéo pour vous l'expliquer. Alors, il faut comprendre d'où ça vient. Là, je vous ai affiché Scott Bessent. Scott Bessent, c'est important parce que c'est le secrétaire au Trésor américain. Et c'est un type qui a véritablement une vision. Et cette vision, elle a été présentée par lui dans le cadre d'entretiens qui ont été publiés au moment où il a été sélectionné comme secrétaire au Trésor, très rapidement, à la fin du mois de novembre 2024. Et dans sa vision stratégique, on va dire, il a expliqué que un dollar fort et des tarifs douaniers pouvaient accroître le pouvoir des États-Unis sur la scène mondiale. Alors, je ne sais pas si la politique qui a été engagée par les tarifs de Donald Trump vise à renforcer le dollar. Pour l'instant, il semble plutôt l'affaiblir. Et Donald Trump a partagé sur son réseau social une vidéo qui laisse à penser qu'il cherche plutôt à faire baisser le cours du dollar plutôt qu'à le faire monter. En revanche, l'idée d'utiliser les tarifs douaniers pour accroître le pouvoir des États-Unis sur la scène mondiale, ça, assez clairement, c'est là. Et c'est intéressant parce que Scott Bessent, à ce sujet-là, a mentionné une théorie, ou disons un modèle de ce qu'il pense qu'il faudrait faire. Et ce modèle, il consisterait précisément, et ça c'est intéressant, ça va vous rappeler quelque chose, en mettre en place une stratification de niveau tarifaire en vert, en jaune et en rouge, qui doit être en fonction de l'adhésion aux valeurs et aux intérêts américains d'un certain nombre de pays. Ça, c'est extrêmement intéressant. Pourquoi ? Eh bien, parce que ça vous rappelle un petit peu le principe de la carte des traites, c'est-à-dire l'idée d'avoir des zones qui sont plus ou moins intégrées en fonction du degré de confiance qui existe déjà dans ces zones-là. Je rappelle encore une fois que l'idée des cinq, c'était d'avoir les cinq grosses fermes qui se développent bien, autour un espace périphérique avec un relatif avantage, et ensuite tout l'espace étranger, dont les provinces qui appartiennent au royaume mais qui sont considérées comme l'étranger. C'était ça, cette stratification en degré de confiance, de partenariat, d'économie et de proximité culturelle, d'une certaine manière. C'était ça qui avait été mis en place par le système des traites. Et dans la doctrine Bessent, donc, on a cette idée de doctrine des trois couleurs. Alors ça, c'est un schéma que j'ai pris d'une vidéo, je crois que c'est un Allemand qui a fait ça, mais enfin, la vidéo est en anglais, où il explique la stratégie de Donald Trump. Il n'explique pas exactement la même chose que moi. Pour lui, c'est l'idée d'obtenir de nouveaux accords de Mar-a-Lago. Je vais y revenir, mais enfin, ça s'appuie sur l'idée de Bessent, donc c'est là que j'en ai pris connaissance. Je vous mettrai le lien de la vidéo en description. Donc vous voyez, c'est ça. C'est l'idée, c'est que vous auriez les états verts qui sont les états de confiance, les vassaux. Ensuite, vous auriez les neutres, ceux avec qui vous n'êtes pas particulièrement en bisbille, mais avec qui vous avez des relations plus de concurrence nette. Et ensuite, vous avez carrément les ennemis. Et avec ceux-là, l'idée, c'est éventuellement de mener carrément une guerre commerciale. Alors, ça, donc, c'est la doctrine Bessent. C'est la première chose. Simplement, ça suffit pas trop, ces tarifs, pour essayer de comprendre ce qui est en train de se passer. Et le fait est que tant qu'on n'en est pour l'instant qu'à cette question des tarifs, beaucoup de gens se posent la question. Certains vont même jusqu'à dire qu'en fait, Trump cherche carrément, volontairement, à crasher le marché des actions pour faire baisser les taux d'intérêt très fortement et pour pouvoir ensuite refinancer la dette américaine. Ça me paraît un peu excessif comme stratégie si ça se résume à ça. C'est pas totalement absurde cependant, parce que il y a une chose qui est importante, et ça c'est l'autre. Je vous ai pas mis la photo, mais c'est pas grave, je pourrais la rajouter peut-être plus tard. De toute façon, vous la trouverez facilement. C'est pas très intéressant de savoir la tête qu'il a. Ce qui est intéressant, c'est Stephen Miran, qui est un conseiller économique de Donald Trump de premier plan, qui a écrit et publié un article il y a quelques mois qui s'intitule en substance comment réformer le système économique mondial, hein, en fait, tout simplement, c'est-à-dire revenir sur ce qui est en vigueur depuis 30 ans au profit des États-Unis. Et en particulier avec l'idée que le système tel qu'il est oblige les États-Unis à acheter à l'extérieur pour maintenir le dollar comme monnaie de réserve, et du coup ça les amène à se désindustrialiser et à s'affaiblir en interne. Et donc l'idée, c'est d'essayer de revenir là-dessus. Donc Miran propose un certain nombre de stratégies, mais il y a aussi un problème dans ce qu'explique Stéphane Miran. qui est important, c'est le fait que aujourd'hui, les États-Unis, en raison de leur dette absolument colossale, sont face à un problème qui n'existe que pour eux. C'est-à-dire tout État très endetté, hein, c'est le cas de la France notamment, a un problème de dette en soi. Si vous êtes très endetté, c'est difficile de renouveler votre dette. Mais le problème pour un pays qui a la taille des États-Unis et la taille de la dette des États-Unis, c'est encore autre chose. C'est un volume, vous savez, c'est le moment où la quantité devient une qualité. C'est-à-dire que votre volume crée un problème en soi qui est inédit. Et ce problème, c'est que, vu la masse, les États-Unis doivent emprunter à peu près 3 000 milliards de dollars par an. Ça veut dire que les États-Unis doivent pratiquement emprunter le produit de la croissance mondiale. Donc en gros, les États-Unis doivent capter toute la richesse qui est créée pour nourrir leur dette. Et ça devient une situation extrêmement périlleuse. Donc très clairement, dans la tête de Trump, mais dans la tête de tout l'État américain, en fait, hein, c'est pas tout seul. C'est probablement d'ailleurs pour ça qu'il subit assez peu d'opposition jusqu'à maintenant, parce que les gens savent qu'il faut faire quelque chose. De toute façon, ben, il y a l'idée qu'il y a une urgence, parce que c'est ça ou la banqueroute. Donc il faut aller trouver de l'argent. Et Miran suggérait aussi une autre idée qui pourrait être, et qui a été en fait évoquée également par Bessent dans son entretien, qui est l'idée que justement dans son idée de vert jaune rouge, les pays qui bénéficient du parapluie de défense américain devraient payer ça en fait en achetant de l'américaine à long terme, c'est-à-dire à 30 ou 40 ans, donc en payant d'avance ce qu'ils reçoivent. Et Miran avait même une idée encore au-delà, semble-t-il, qui serait de mettre en place de nouveaux types d'obligations d'État, qui pourraient être des obligations qui vont jusqu'à 100 ans, c'est-à-dire à très très long terme, et qui seraient un nouvel instrument qui permettrait de refinancer toute la dette américaine. Et donc ces idées-là se rejoignent, et je pense que c'est un élément intéressant, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que les États-Unis pourraient essayer, par exemple, d'utiliser, comme je vous ai dit, ce qu'a fait Rome, c'est d'imposer le tribut à ses voisins. Bon, naturellement, les États-Unis n'ont pas imposé de tribut jusqu'à maintenant, mais les États-Unis imposent leurs droits de douane à un certain nombre d'États. Il n'est pas du tout dit que ceci ne va pas trouver une forme de renégociation qui viserait à le transformer en tribut. Comment est-ce que ça pourrait arriver? Eh bien, vous avez peut-être entendu parler d'une volonté de Donald Trump de mettre en place, et semble-t-il, il recommence à en parler, et là on va arriver, si vous voulez, sur les éléments qui, à mon avis, permettent d'aller plus loin que ce que disent les autres analyses, parce que les autres analyses, encore une fois, elles essaient de comprendre ce qui se passe avec ce système de taxes, de tarifs, mais ne se posent pas la question de le mettre en lien avec des choses qui n'ont pas encore eu lieu, mais qui ont déjà été annoncées. Et à mon avis, c'est ça qui manque souvent aux analyses, parce que ça dresse un tableau d'ensemble. Quels sont les autres éléments importants qui doivent être mis en place? Le premier élément, c'est Trump qui a expliqué qu'il voulait mettre en place l'External Revenue Service. Qu'est-ce que c'est l'External Revenue Service? On ne sait pas. Simplement, l'Internal Revenue Service, c'est l'impôt fédéral américain, le système de collecte de l'impôt fédéral américain, de l'impôt sur le revenu, qui a été mis en place en 1913, en même temps que la Federal Reserve. Et c'est le principal impôt américain qui rapporte quelque chose comme 4 ou 5 000 milliards de dollars à l'État américain par an. C'est sa première, son premier poste de enfin, c'est un de ses premiers postes de revenus. C'est ça qui permet de financer l'État fédéral américain. Et l'idée de Donald Trump, il a expliqué que l'Internal Revenue Service, d'accord, ben, il fallait créer un External Revenue Service, parce qu'il n'y a pas de raison que l'État fédéral américain, qui fait tant pour le monde, hein, naturellement, puisqu'il sert de gendarme du monde avec ses armées, etc., il sert de parapluie militaire, qu'il n'y avait pas de raison qu'il n'y ait pas aussi un External Revenue Service pour aller récupérer à l'extérieur les revenus, justement, qui viendraient de l'extérieur, mais sans expliquer ce que c'était. Et ça, c'est intéressant parce que beaucoup de gens, du coup, ont commenté en disant, mais enfin, External Revenue Service, parce que Trump a lié ça aux droits de douane. External Revenue Service, si c'est pour aller capter les droits de douane, ben, ça va faire doublon avec le ministère du Commerce et le ministère du Trésor américain. Donc, ça ne sert à rien de créer une nouvelle agence. Sauf que Trump y tient beaucoup. Et alors, ça peut être simplement un coup de com', mais je pense que ça va au-delà de ça. Parce que dans son esprit, assez clairement, ça vient en miroir de l'Internal Revenue Service. Donc l'idée, en fait, de l'External Revenue Service, c'est d'aller capter un impôt à l'extérieur du territoire américain. Et un impôt sur, en réalité, l'étranger. C'est-à-dire que selon moi, l'idée de l'External Revenue Service, c'est de mettre en place un tribut des autres pays du monde au service du Trésor américain. Et donc l'idée, ça serait, c'est que si vous faites ça, c'est pas tellement pour récupérer des droits de douane que vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de cette agence pour récupérer un nouveau type de revenu. Alors ce nouveau type de revenu, qu'est-ce que ça pourrait être ? Eh bien, ça pourrait être tout simplement un paiement forfaitaire libératoire, par exemple, que les pays qui ne veulent pas payer les droits de douane négocient auprès des États-Unis en disant « bon voilà, les droits de douane que vous nous avez imposés annuellement, ça va nous coûter ça, assez clairement. On est prêt à vous payer un petit peu moins, mais cash tous les ans. » Voilà. Et à ce moment-là, vous nous permettez de continuer à commercer avec vous comme avant. Auquel cas, c'est intéressant parce que ça pourrait, précisément, au lieu d'entraîner une fermeture des marchés, favoriser le libre-échange, mais ça serait un libre-échange taxé par l'État américain. Et l'autre chose intéressante que vous voyez, c'est que ça serait une sorte de mise en fermage de la perception de l'impôt à l'échelle mondiale par l'hégémon américain. C'est-à-dire qu'il dirait aux États ou à l'Union européenne, à ces choses, aux entités auxquelles il s'adresse, il dirait très bien, je vous prends ce prélèvement forfaitaire chaque année, à vous de vous débrouiller pour récupérer ça sous forme de taxes chez vos gens. Vous vous débrouillez, je ne veux pas savoir comment. Par contre, vous me donnez ce tribut tous les ans. Et ensuite, moi, je laisse les gens chez vous commercer avec moi. Je pense que ça serait une forme de tribut possible, ça, ce paiement forfaitaire. Ce paiement forfaitaire qui pourrait prendre la forme, justement, des bons envisagés par Stéphane Miran. C'est-à-dire que cet External Revenue Service pourrait servir finalement d'agence du Trésor qui vendrait cette dette à très long terme et pourrait restructurer la dette américaine en échange d'un abaissement de ses droits de douane. Voilà. Et les droits de douane serviraient pour distinguer l'ami et l'ennemi, c'est-à-dire l'ami c'est celui qui accepte de participer au pot commun, et l'ennemi ou le neutre c'est celui qui ne veut pas participer, qui préfère payer des droits de douane, et bien il continue de payer des droits de douane, par contre lui il ne bénéficie d'aucune protection militaire. Donc très clairement, c'est pas du tout une mise en œuvre, on va dire, de la dissolution de l'Empire américain comme j'ai pu le dire, au contraire c'est une intégration de l'Empire américain, avec une structure de base étatique qui est la structure d'un impôt, mais un impôt extérieur. Et alors j'ai lu d'autres mesures techniques, le gars dont je vous disais, dont je vous mets la vidéo en lien, lui il explique que les deals ça pourrait être des nouveaux accords de Mar-a-Lago dans lesquels en fait il se passerait la même chose sauf que ça se ferait de manière monétaire, c'est-à-dire que il y aurait les Américains passeraient des accords monétaires avec les partenaires qui les aideraient à maintenir leur monnaie au niveau où ils veulent. Bon. C'est peut-être un accessoire, mais je pense quand même qu'à ce moment-là, il n'y aurait peut-être pas besoin de l'External Revenue Service. Donc, l'External Revenue Service, je le vois quand même sur quelque chose de plus important. Et puis, pourquoi c'est plus important ? Parce que, en plus, ce que je viens de vous dire, ça fait système avec la comparaison que je faisais avec les Romains. Parce que, qu'est-ce que je vous disais ? Je vous disais, à Rome, l'émergence du tribut extérieur a répondu à l'émergence du tribut extérieur et à l'apparition du tribut extérieur, la disparition de l'imposition à l'intérieur, la quasi-disparition, en tout cas sa diminution très forte sur les citoyens romains. Or, que dit Trump également, ça n'a pas été encore mis en place, mais probablement ce sera prochainement, il envisage de supprimer l'impôt sur les Américains qui gagnent moins de 150 000 dollars par an. J'ai fait des petites recherches et il semble que cela représente plus de 90% de la population américaine, à peu près 93%, et que ça représenterait une diminution des revenus de l'impôt sur le revenu pour l'État américain d'entre 500 et 600 milliards de dollars. Et comme par hasard, c'est les sommes que... Alors c'est une estimation haute, semble-t-il, le chiffre est contesté, d'aucuns disent que les droits de douane en l'état actuel ne pourraient rapporter que 300 ou 400 milliards, mais... C'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse pour connaître la motivation de l'État américain, c'est ce que lui espère en tirer. Et il espère en tirer 600 milliards. C'est ça les estimations, semble-t-il, du Trésor. Et donc c'est une adéquation totale. C'est-à-dire c'est l'idée de supprimer autant d'impôts sur le revenu que rentrerait de droits de douane ou autre chose. C'est-à-dire ou éventuellement ces refinancements dont je parlais à l'instant. Et à ce moment-là, ça ne ferait pas peser sur le consommateur, en plus américain, les droits de douane, ou en tout cas, les droits de douane pèseraient sur la consommation, mais seraient compensés au moins partiellement par les baisses d'impôts. Et donc, ça pourrait en plus relancer une partie de la compétitivité fiscale américaine. Mais ce qui est très intéressant, vous voyez, c'est que si vous additionnez, si vous n'avez que l'histoire des tarifs, vous n'avez qu'une partie du système. Et c'est pour ça que beaucoup de monde n'y voit pas clair là-dessus. Et je pense que c'est une erreur. Je pense que si vous reliez les points qui existent déjà, c'est-à-dire les tarifs, mais que vous regardez aussi ce qui vraisemblablement va être fait parce qu'ils en parlent de plus en plus, vous avez les baisses d'impôts pour les citoyens américains, pour la grande majorité des citoyens américains, plus de 90%. Ce qui est amusant, c'est que dans le même temps, le crash du marché action, ça touche à peu près 8%, donc moins de 10% de la population américaine qui véritablement y perd dans ce système-là. Donc, après, vous avez naturellement les plans d'épargne retraite, mais ça, c'est à plus long terme. Mais les gens qui ont une perte aujourd'hui et qui souvent doivent la prendre, c'est vraiment une petite minorité de la population. Et vraisemblablement, c'est la petite minorité de la population qui ne gagne pas 150 000 dollars par an, mais qui gagne beaucoup plus. Donc, on voit sur quelle partie de la population Donald Trump cherche à s'appuyer là-dedans. Donc, effectivement, ça reste populiste, mais c'est un phénomène assez marquant de la mise en place d'une phase absolutiste, c'est-à-dire que c'est le pouvoir central qui s'appuie contre la caste des oligarques qui lui contestaient son pouvoir sur le reste de la population. Bon, typiquement, c'est ce qu'est en train de faire Donald Trump. Et donc, si vous additionnez les tarifs plus les baisses d'impôts à l'intérieur des États-Unis plus la mise en place de cet External Revenue Service qui donne quand même des indices sur ce que cherche à faire Donald Trump, eh bien, vous retombez sur, effectivement, la réformation, la réorganisation totale du système d'imposition à l'intérieur de l'espace impérial américain. L'espace impérial américain, c'est non seulement les États-Unis eux-mêmes, mais c'est également l'ensemble du monde, en fait, hein, d'une certaine manière, que dominent les États-Unis. Alors, il y a des endroits qui dominent plus que d'autres, et il y a une partie du monde qui reste l'étranger, si vous voulez, mais on voit cette volonté d'intégration ou de réintégration supérieure au profit du pouvoir américain, avec des degrés donc de plus en plus périphériques, assez similaires à ce que je vous ai montré qu'on avait fait avec la carte des traites. Hein, donc vous auriez en fait le territoire américain aujourd'hui qui correspond aux cinq grosses fermes, les provinces réputées étrangères. Eh bien, ça serait probablement l'Europe, l'Amérique du Sud. Et le Moyen-Orient, les partenaires commerciaux habituels, commerciaux stratégiques habituels des États-Unis. Et ensuite, vous auriez l'étranger effectif, c'est l'équivalent à l'époque donc de l'Angleterre et des Provinces-Unies. Aujourd'hui, ça sera la Chine, la Russie, bref, l'Iran, les pays considérés comme hostiles aux États-Unis. Donc clairement, ce n'est pas, selon moi, une désintégration de l'Empire, c'est une intégration accrue de l'Empire dans le cadre de l'entrée dans une phase absolutiste. Et donc, ce que je pense, encore une fois, pour synthétiser les prochains mouvements qu'on va voir très clairement, après cette multiplication des tarifs qui a surpris un peu tout le monde, ça va être la mise en place, alors je ne sais pas si c'est dans cet ordre, mais la mise en place de la baisse d'impôts sur le revenu à l'intérieur des États-Unis. Et la mise en place de cet External Revenue Service qui permettra de savoir un petit peu plus sous quelle forme les États-Unis de Donald Trump comptent se financer leur nouvelle mouture d'empire, pour ainsi dire, avec les ressources qu'ils prendront sur l'ensemble de leurs partenaires consentants et dans la confrontation avec les ennemis, hein, donc ou les concurrents non consentants. Voilà ce que je voulais détailler avec vous ce soir. J'ai pas pu faire d'émission live parce que ma connexion internet est en rade et ne le permet pas. Tout au plus pourrais-je réussir à télécharger, sans doute ça durera longtemps, cette vidéo, mais comme ça au moins vous en avez une et ça permet de détailler ce sujet sur lequel j'ai dit pas mal de choses sur X depuis hier. Mais voilà, j'avais envie de faire cette vidéo de synthèse parce que ça me paraît important. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux formats et d'ici là, vous laissez pas faire.